midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour à votre santé, le mardi c'est à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous, bonjour Nader.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
C'est parce que vous avez eu des commentaires qui ont trouvé que vous aviez un joli pull la dernière fois que vous êtes habillé en noir aujourd'hui.
Oui, mais je reviendrai avec...
Vous reviendrez. Non, c'est important, c'est important.
Absolument, voilà. J'y tiens.
Bon, pour vos fans.
Absolument.
Je rappelle que vous êtes psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Notre invitée aujourd'hui est Thérèse Argaud. Bonjour et bienvenue Thérèse.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes sexologue, thérapeute de couple et essayiste. Vous vous définissez comme un esprit libre et refusez l'étiquette manif pour tous.
Ah bah oui, on n'a aucune raison d'être là.
Non mais c'est vrai, mais souvent sur les réseaux sociaux, on découvre des portraits de soi qui peuvent ne pas être la réalité.
Bah oui.
Donc,
et quand on s'appelle Thérèse, vous savez, il y a beaucoup de raccourcis. C'est un prénom tellement connoté religieusement que les raccourcis se font rapidement.
Et pas que religieusement d'ailleurs.
Non,
ça cinématographique, voilà.
C'est vrai, c'est pas facile de s'appeler Thérèse.
Non, non.
Donc c'est, en tout cas,
surtout
c'est facile de faire des raccourcis.
Pour une Thérèse, en plus.
Mais oui, c'est ça qui est très étonnant. Non, c'est pas du tout normal de m'appeler Thérèse. Mais donc c'est vrai, la manif pour tous. Simplement, je suis intervenue donner des conférences dans cette association, mais je ne fais pas partie de ce mouvement du tout. Je n'ai jamais manifesté et on m'a collé cette étiquette comme on collerait l'étiquette aujourd'hui de dire je suis sur Beurre FM et donc je suis Beurre FM.
Non,
je viens intervenir pour débattre avec vous, discuter et ça me réjouit.
Mais
et
sexologue catho, ça vous va ou pas?
Alors, pas du tout, là aussi, je ne sais pas
très bien
d'où ça
vient. C'est bien. Alors, c'est pareil, étonnant. Ça a été repris
mais
comme
oui,
une très...
évidemment. Ouais. Mais en fait, on veut mettre absolument dans des étiquettes, dans des petites cases, parce que c'est très rassurant de mettre les gens dans des cases.
Ouais.
Alors, ce qui est vrai, absolument vrai, c'est que j'ai grandi dans une famille très catholique. Ça veut dire que j'ai grandi dans la foi. J'ai été éduquée avec des parents qui m'ont appris, voilà, toutes les valeurs de la religion. Et j'ai un énorme respect pour les religions en général. Et donc, voilà, donc je connais, voilà, j'ai été éduquée dans cette dimension-là. Après, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai du mal à croire en l'existence de Dieu. Depuis l'âge de mes 15 ans, j'en ai 39 aujourd'hui, donc ça fait longtemps. Donc voilà, donc je ne pratique plus la religion.
Alors ils ont rajouté la sexologue catho qui ne croit pas en Dieu depuis l'âge des 15 ans.
Ah voilà, exactement.
Ils l'ont rajouté, ça.
Non, mais ça c'est plus logique. Et c'est vrai. Mais par contre, ce qui est vrai que je peux vraiment vous partager, c'est que je trouve ça très intéressant de parler d'amour et de sexualité, mais aussi en lien avec tout cet héritage culturel et religieux, parce que pour beaucoup de personnes, c'est encore important. Et moi, je suis ravie d'en parler et de dialoguer aussi avec les personnes qui sont croyantes. Donc voilà.
Bien.
Ça me semble important.
Alors, vous êtes là pour parler de votre livre qui s'appelle Tout le monde en regarde ou presque chez Albin Michel, sous-titré Comment le porno détruit l'amour. Alors, évidemment que c'est un clin d'œil parce que tout le monde ne regarde pas du porno ou presque.
Alors, quand je dis tout le monde en regarde ou presque, ça veut dire que selon les chiffres qui sont connus aujourd'hui en France, la pornographie est consommée de façon massive. Ça veut dire que pour tous les parents qui nous écoutent, sachez que un enfant sur trois en France a déjà vu des images pornographiques avant l'âge de ses 12 ans, deux enfants sur trois avant l'âge de ses 15 ans, la moitié des garçons de 12-13 ans regardent plusieurs fois par mois de la pornographie, et quel que soit le milieu social, quelle que soit la confession, quelle que soit l'éducation qu'on ait pu recevoir. Et puis quand je dis le ou presque, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a certains enfants qui n'ont pas été exposés à ces images, mais ils vivent dans une société où on pourrait parler de culture pornographique. Ça veut dire que la pornographie a donné ses codes aussi à l'industrie, à la fois de la musique, des séries, à la télévision. Et donc, on baigne quand même dans cette culture pornographique tous. Donc, on est tous imprégnés directement ou indirectement par la pornographie aujourd'hui en France.
Dans le monde.
Et dans le monde entier.
Dans une large partie du monde. Peut-être pas le monde entier, mais une large partie du monde.
Ouais. C'est vrai que dans certaines régions, il y a un contrôle qui est fait aussi pour que les gens n'aient pas accès à ces images. Mais c'est vraiment un phénomène mondial. On parle de 136 milliards de vidéos visionnées par an dans le monde. Cette industrie, elle génère 140 milliards de dollars par an.
Davantage juste pour que Netflix.
Exactement. Aux États-Unis, c'est 17 milliards de chiffres d'affaires. Donc 17 milliards de dollars, pardon. Et c'est plus que la NBA et Netflix réunis. C'est pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du phénomène et de l'industrie que c'est.
Mais alors, d'où vient l'argent? Parce que le porno, c'est gratuit.
Alors, le principe, il est simple. C'est très important que tout le monde le comprenne. Depuis l'arrivée d'Internet, la distribution de la pornographie a considérablement changé. Donc, elle se fait aujourd'hui sur les sites Internet. Le consommateur ne va plus payer comme à l'époque où il fallait payer la cassette, le magazine ou l'abonnement de télévision qui permettrait d'avoir accès à ces images. Et donc, le consommateur ne paye plus, mais les plateformes vont gagner beaucoup d'argent parce qu'il faut qu'il y ait, du trafic sur le site pour augmenter le prix de la publicité. Donc, ils gagnent de l'argent par rapport à la publicité qui est faite sur ces sites. Très concrètement, pour gagner de l'argent, il faut beaucoup d'utilisateurs, qu'ils reviennent souvent et qu'ils restent longtemps. Comme ça, ça augmente le trafic et donc ça, on peut augmenter le prix de la publicité. C'est pour ça que...
Et les pubs donc, qui sont sur ces plateformes, ça fait 17 milliards, c'est ça?
Mais oui, c'est un chiffre d'affaires. Ça, 17 milliards, c'est juste aux États-Unis. Oui. Hein. Alors, 140 milliards, c'est dans le monde. C'est pour dire que c'est...
Qui c'est qui annonce sur ces sites?
Alors évidemment, les annonceurs, ce ne sont pas des radios sympathiques comme la vôtre ou je ne sais pas, la promotion de tel ou tel livre. Non, les annonceurs, ce sont des personnes qui sont... ce sont des entreprises qui sont liées au monde de la prostitution. C'est important de le dire parce que ce qu'on va vendre sur ces plateformes, ce sont des services sexuels. Ça veut dire que le consommateur, il va s'habituer à consommer ce qu'on appelle de la prostitution filmée, photographiée, parce que, de nouveau, faut dire les choses, hein, les acteurs, les actrices, ils sont payés pour ça, ça s'appelle des travailleurs du sexe, c'est un métier, alors on peut être pour ou contre, mais c'est de ça dont il s'agit. Et donc, finalement, à force de consommer de la prostitution filmée, eh bien, d'un clic, on peut aller consommer de la prostitution aussi en présentiel, et c'est ce qui se passe.
Alors ça c'est un élément que vous introduisez, c'est que ces acteurs sont des prostituées.
Bah, on l'a oublié, en fait, installé confortablement derrière son écran, on oublie que ce sont des vraies femmes, des vrais hommes de la vraie vie qui monétisent des actes sexuels. Et donc, ça s'appelle la prostitution, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on peut donner les jolis noms qu'on veut, c'est quand même de ça dont il s'agit.
Mais qui est le client, alors?
Alors, le client, au départ, c'est monsieur, madame, tout le monde. Mais là où le chiffre d'affaires se fait grâce aux publicités. C'est exactement comme l'inventeur de Instagram, Facebook ou même Vinted ou peu importe la plateforme. On ne paye pas pour être sur ces plateformes-là. En revanche, ceux qui vont créer ces plateformes gagnent énormément d'argent par le temps qu'on y passe dessus. Est-ce qu'on comprend tous le business model?
Oui, non. D'abord, il faut déjà comprendre que c'est un business.
C'est la chose qu'il faut dire à vos enfants.
C'est comme les armes, c'est pareil, ça rapporte autant que les armes que...
Aujourd'hui, la pornographie, c'est une industrie qui cherche à faire du profit. Donc, l'objectif n'est pas de répondre à nos questions sur la sexualité. L'objectif n'est pas de nous apprendre à avoir une vie sexuelle épanouie. L'objectif n'est pas en faire en sorte qu'on
ait du plaisir.
Du plaisir ou de la joie de notre intimité sexuelle et que les mariages soient heureux et durables. Non, l'objectif, c'est de se faire un maximum d'argent. Comment? En faisant en sorte qu'on reste le plus longtemps derrière son écran. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a compris ça, ben on peut quand même commencer à interroger cette industrie, parce que quand on voit que nos enfants sont exposés et que les adultes du coup en consomment aussi massivement, ben il y a un peu de quoi s'inquiéter.
Alors vous dites et vous écrivez dans votre livre, Thérèse, quelque chose que Nader nous dit souvent, c'est que le porno d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le porno des années 70 ou des années 80.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé finalement?
Ben, si on comprend bien que le business model de cette industrie, donc qui se fonde sur un principe simple, il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs et qu'ils soient accros, eh bien ça fonctionne sur un système d'addiction. La pornographie, ce que je dis dans ce livre, c'est une drogue. Et je voudrais vraiment que les gens comprennent que c'est une drogue. Et donc, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'adultes qui consomment ces images, eh bien l'industrie a eu cette très bonne idée d'un point de vue business, mais absolument machiavélique, c'est d'exposer les enfants à ces images pour faire en sorte de provoquer le mécanisme de l'addiction. C'est-à-dire qu'on habitue les enfants à consommer ces images pour qu'adultes, ils continuent à consommer. Pour faire simple, hein, pour vous tous qui nous écoutez, c'est quand on commence à fumer quand on est au collège, on a beaucoup de risques d'être un gros fumeur à l'âge adulte. Si vous commencez à fumer à 40 ans, vous n'avez pas beaucoup de risques d'être un gros fumeur. Donc là, si on s'habitue à cette consommation, on va peut-être beaucoup en consommer. Mais alors, pour l'histoire des images qui sont représentées, le cerveau, il va voir ces images qui vont provoquer instantanément de l'excitation sexuelle en vue de la masturbation. Ça sert à ça, la pornographie.
Alors, vous dites qu'au début, d'abord, il y a une phase de dégoût.
Alors ça, c'est la première fois qu'on est exposé à ces images. Avec sa tête, son intelligence, la bonne éducation qu'on a reçue, on se dit « Ouh, c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. J'ai moins de 18 ans, je sens bien que je suis en train de faire une bêtise. » Avec son cœur, on a plutôt des émotions telles que du dégoût, de la honte ou de la gêne. Et physiquement, on ressent une sensation agréable, parce que l'excitation sexuelle, c'est agréable physiquement. Le plaisir sexuel, c'est très agréable. C'est là que l'enfant va pas comprendre. Comment c'est possible d'avoir une excitation sur quelque chose qui me dégoûte ou qui n'est pas bien? Il va se sentir coupable d'avoir vu ces images alors qu'il n'est pas censé en regarder, il sait bien. Il va se sentir honteux d'avoir éprouvé une sensation agréable. Et quand on se sent coupable et honteux, on s'enferme dans le silence et on n'en parle pas. C'est pour ça qu'en général, nos enfants ne viennent pas nous dire qu'ils ont vu ces images pornographiques, parce qu'ils disent toujours oh, « je vais être grondée, j'ai fait une bêtise, je vais être punie, qu'est-ce que mon père ou ma mère va penser de moi s'ils voient que j'ai vu ces images ?» Et donc, ils restent seuls avec ce secret, ils peuvent rester seuls pendant longtemps, et c'est la solitude et l'isolement qui va être un vrai problème pour eux. Et donc, on parlait aussi de ces images qui n'ont plus rien à voir avec l'époque, c'est que le cerveau va être saturé d'images, et donc une certaine représentation ne va plus faire de l'effet, ne va plus provoquer de l'excitation. Ça veut dire que pour ressentir de l'excitation, il faut augmenter la dose, il faut transgresser davantage. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement d'images sexuelles en tête que des simples représentations ne nous font plus rien. Donc, il faut transgresser encore et encore. Et parfois, on va très loin et on va commencer à cliquer sur des catégories ou des contenus qui sont extrêmement violents. Et moi, je dis souvent que des fantasmes... On peut être habité par des fantasmes qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas été exposé aux images pornographiques. Ça veut dire que l'industrie fabrique des fantasmes qui ne sont pas naturels, entre guillemets, on a des fantasmes naturels, mais là, ça devient des fantasmes artificiels pour assouvir le désir insatiable d'un consommateur qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et voilà pourquoi... c'est ça, de sensation.
Et puis, dans les années 70, ça restait quand même de l'ordre du festif.
Oui.
Alors que là, on est dans
c'est-à-dire
une violence.
Du festif.
Si vous compariez deux images, l'une des années 70 et l'une de récente, vous aviez d'un côté une femme dont on voit dans le visage qu'il y a du plaisir, alors que dans la seconde image, vous voyez une femme qui se tord de douleur. Donc on voit bien une différence extraordinaire qui montre comment ça a évolué, comment il faut, on invite en fait à davantage de douleur pour être in, pour être un quelqu'un qui sait avoir une relation sexuelle digne de ce nom.
Mmh. Alors ce qui a beaucoup changé par rapport aussi à ces années-là, c'est que c'est en accès libre aujourd'hui.
Exactement.
C'est illimité.
Ça change tout.
À tout
parce
moment.
Que autrefois, il fallait trouver la cassette, le DVD, ou il fallait attendre le film du samedi soir à une certaine heure. Ça veut dire qu'il y avait, c'était pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller voir ces images à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne comme une drogue qui est ultra accessible. J'ai aussi que la pornographie, c'est le McDo du sexe, quoi. C'est vraiment l'inventeur de McDo qui délivre des burgers à toute heure du jour et de la nuit, alors que, au départ, on est habitué à manger à certaines heures de la journée.
Et c'est même plus dangereux que ça, parce que le McDo ou comme ça, on fait l'action d'aller vers,
oui,
alors que l'autre peut venir. Moi, j'ai eu des cas où des jeunes enfants, justement, sans même qu'il ait demandé quoi que ce soit, il suffit qu'il tape un Y sur son moteur de recherche pour que plein de choses lui soient proposées, et il clique par curiosité ou parce que ça lui donne envie d'essayer ou de voir, et puis il se retrouve dans un monde qu'il découvre et qui est ouvert.
Que les images viennent, même si vous ne les avez pas demandé, sollicitées.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc, c'est très important de comprendre que, bon, en même temps, la nature a horreur du vide. Donc, c'est vrai qu'un enfant qui n'a pas reçu d'éducation, il va chercher des informations. Et donc, aujourd'hui, Internet peut être aussi une source d'informations. Mais le problème, c'est sur quoi est-ce qu'ils vont tomber comme contenu? L'autre jour, j'entends une petite fille qui vient en consultation avec ses parents. Elle avait écrit faire l'amour et est tombée sur des dizaines et des dizaines de sites pornographiques. Les parents ont été horrifiés. À 9 ans, de se poser la question sexuelle, c'est normal d'avoir une curiosité, jusque-là c'est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est que nos enfants, aujourd'hui, tombent sur ce genre de contenu qui va leur faire beaucoup de mal.
Alors, on marque une pause, Nader, si vous voulez bien. Oui. Thérèse Argot est notre invitée. Je rappelle que vous publiez Tout le monde en regarde ou presque, comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel. Tiens, tenez, Nader, montrez-le à la caméra, puisque l'émission est filmée et vous êtes avec nous jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
Uniquement chez Poltron et Sofa, on trouve des canapés stylés et confortables en même temps.
Et puis, uniquement ça.
Il y a plus de 90 modèles de canapés qui, seulement en ce moment, sont remisés de 30%.
Venez vite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et
Et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais avancés. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci Cerise, je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Alors nous, on voudrait une cuisine...
Avec des tiroirs qui font...
Mais pas trop quand même.
À bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
1664 Blanc présente
à la French.
À la French, c'est quoi?
C'est quoi? Une bière française.
Cette bouteille bleue.
Très très fraîche.
Cette terrasse.
Ensoleillée.
1664 Blanc.
Ce serveur qui virevolte.
De table en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664 Blanc.
C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Excusez-moi, monsieur.
Oui, ma grande.
C'est au sujet de vos t-shirts, il n'y a pas un moins cher?
Ah non, désolée, ma grande.
Arrêtez de m'appeler ma grande. S'il y a un truc que j'aimerais voir grande, c'est vos promos.
Et oh, on n'est pas chez Sport 2000 ici.
Conseil d'expert, venez chez Sport 2000. Jusqu'au 26 mai, pour 3 t-shirts achetés, le t-shirt de marque est à 9,99€. Sport
2000. Ça match.
Conditions et liste des magasins participants sur sport2000.fr.
Saviez-vous que la production de collagène diminue à partir de 20 ans? Pour une peau repulpée et sublimée, découvrez Manae Collagène Expert, le complément alimentaire qui associe collagène et acide hyaluronique dans une seule gélule. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie et parapharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, bougez plus.
Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, point de vente soumis au code de la mutualité. Offre valable jusqu'au 31 août 2024, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr.
Leclerc, bonjour.
Oh là là, alors vous mes petits gars, vous êtes vraiment trop mignons. La peau tendre et veloutée, la mine estivale et... Oh, et vous sentez sacrément bon en plus. Je crois que je vais vous adopter.
Monsieur, vous êtes à l'antenne.
Oh, désolé, j'étais en train de choisir des abricots.
Ah, je comprends. C'est vrai qu'ils font envie nos délicieux abricots à 2,89€ le kilo, du 14 au 18 mai chez Leclerc.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre A, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Oh, mon imprimante bureau Valet.
Tu m'aides à porter ce carton?
Peux pas.
Bah, dommage, c'est ma nouvelle imprimante Canon.
Attends, j'arrive.
Oh, bah trop tard.
Chez Bureau Valet, jusqu'au 25 mai, l'imprimante multifonction jet d'encre Canon Maxify MB2150, impression jusqu'à 19 pages par minute, écran tactile de 6,2 cm, chargeur automatique 50 feuilles, est à 84,90€ au lieu de 119,90€.
Bureau Valet, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre dans la limite des stocks disponibles. Conditions et magasins participants sur bureau-valet.fr.
Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle du business de l'industrie pornographique ce matin avec mes invités, Nader Alami qui est avec nous et puis Thérèse Argot, sexologue, thérapeute de couple et essayiste qui vient nous parler de son livre qui s'appelle « Tout le monde en regarde ou presque » chez Albin Michel, « Comment le porno détruit l'amour ». Alors, on a dit tout à l'heure que c'était une industrie, mais le but de cette industrie, c'est de rendre les gens dépendants.
En tout cas, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire, ça fonctionne sur un système de dépendance. Voilà. C'est pas de nous rendre libres, de faire en sorte qu'on soit heureux dans notre vie sexuelle. C'est tout le contraire.
Donc, si quelqu'un se rend régulièrement sur un site porno, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il est dépendant.
Alors, on va distinguer deux états. Il y a les enfants, s'ils se rendent dessus sur ces images-là, sur ces plateformes-là, c'est important de leur dire que c'est pas de leur faute, de les déculpabiliser, parce que du point de vue de la loi, de façon très très concrète, si un mineur a été exposé aux images pornographiques, c'est la faute du producteur d'images pornographiques, parce qu'il doit faire en sorte que aucun mineur ne voit son contenu. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, c'est lui qui sera condamné et pas l'enfant, même s'il a cherché à voir ces images. C'est le producteur qui doit faire en sorte que les mineurs ne tombent pas sur ces images-là. Donc il faut inverser la culpabilité, c'est pas la faute de l'enfant qui est curieux, c'est la faute des adultes qui l'ont pas protégé. Après, quand on est adulte, eh bien c'est un peu comme la dépendance à la cigarette ou à l'alcool, c'est qu'à un moment on est aussi responsable de ce qu'on fait et qu'on peut à un moment décider de sortir de ces systèmes de dépendance, de se faire accompagner pour arrêter son addiction, comme vous le feriez pour l'alcool ou la cigarette. Mais donc voilà, on peut pas dire c'est pas ma faute, je suis dépendant.
La cigarette, c'est pas honteux.
Non, c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis contente de venir en parler avec vous sur notre
radio. La cigarette, après tout,
c'est, oui, voilà. Mais vous avez raison de dire que c'est pas honteux. Et je vous dis, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est la raison pour laquelle je viens vous rencontrer et que je vais à droite à gauche. C'est parce que je voudrais vraiment que les hommes et les femmes qui nous écoutent arrêtent d'avoir de la honte quand on parle de pornographie. C'est pas parce qu'il s'agit de sexualité qu'en un coup on doit être gêné. Je vous dis, c'est une industrie qui ne cherche pas notre bien, qui ne cherche pas notre bien-être. C'est pas son intention. En tout cas, dans ce qui est proposé aujourd'hui. Et donc, on peut en parler. On peut en parler dans son couple. On peut en parler auprès de ses amis, auprès des enfants. Et moi, c'est ça que je veux, c'est briser un peu ce tabou. Parce que c'est terrible, en fait, le tabou sur ces questions-là.
Nader ?
Alors, je crois que Thérèse Argaud, vous avez bien raison quand vous parlez dans votre livre de l'agression qui est portée sur les enfants afin d'en faire de futurs clients, puisqu'on parle de business. Mais tout le monde, enfin, c'est mal fait, puisque vous avez raison encore une fois de le souligner, les producteurs, c'est eux qui sont responsables, et ce qu'ils font pour prévenir, c'est pas grand-chose finalement. Il suffit de cliquer sur un oui et puis on entre assez facilement. Mais tout le monde est d'accord sur cette idée que c'est pas bien pour les enfants et qu'il faut les protéger de cela. Mais que vous disent ? Est-ce que vous avez des contacts avec des professionnels de ce genre de contenu ? Est-ce qu'ils ils voient pas en vous et dans votre livre et dans votre démarche quelqu'un qui vient un peu nous embêter alors qu'on est entre adultes consentants ?
Oui, alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que moi, en 2016, j'ai sorti un premier livre chez Albin Michel qui s'appelle Une jeunesse sexuellement libérée ou presque, où je parlais du rapport des jeunes à la sexualité. Et j'ouvrais ce livre avec un chapitre sur la pornographie. Et il faut savoir qu'en 2016, il fallait que j'aille convaincre sur les plateaux de télé, dans les journaux, à la radio, que c'était un problème que des enfants voient ces images pornographiques. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, personne n'était vraiment convaincu de cela. C'est-à-dire que les remarques qu'on faisait, c'est oh ça va, on a vu aussi la pornographie quand on est jeune, on n'en est pas mort pour autant. Vous faites tout un drame. On m'a traité évidemment de néo-puritaine, on a mis ça sur le dos de la religion, etc., comme si je venais opérer une censure. Et c'était difficile à l'époque parce que non, tout le monde n'était pas convaincu. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'en quelques années, on a réussi à convaincre l'opinion publique que oui, c'était un problème que des enfants voient ces images, que ça abîme leur rapport à eux-mêmes et aux autres, et ça abîme la qualité de leurs relations. Et donc c'est un enjeu d'éducation important. Alors après, sur les plateaux télé, j'ai pu parler avec des producteurs, des productrices qui, et finalement, étaient assez d'accord avec moi parce qu'ils savent très bien que si les parents allaient tous au commissariat porter plainte, ils seraient bien embêtés parce que c'est eux qui vont en prison et c'est eux qui ont l'amende. Comme je le rappelle, vous pouvez très bien aller au commissariat dire mon enfant a vu des images pornographiques et je porte plainte contre ça parce que en fait, ce n'est pas normal. De la même façon, vous trouverez votre enfant avec de la cocaïne dans sa chambre. La première réaction, si c'est un enfant de 11, 10, 13, 14 ans, vous allez dire mais d'où ça te vient ? On dit m'a distribué ça à la sortie de l'école. Ce que vous iriez faire, c'est au commissariat, aller porter plainte en disant on a distribué ça à mon enfant et on essaierait de trouver le dealer et le mettre en prison. Ben, c'est la même chose avec la pornographie, c'est juste illégal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'en parle pas et que personne ose dire qu'il est touché par ça parce qu'on a dit il y a cette fameuse honte.
Donc alors, pour les enfants, tout le monde est d'accord aujourd'hui.
Maintenant, ça va mieux. Maintenant, pour les adultes, on va dire. Ça va, pour les adultes, il n'y a pas de problème en tant que tel. Les gens, ces gens-là sont consentants, je fais rien de mal. Il faut savoir que
Il n'y a pas d'études en plus.
Non, et alors.
En plus, Thérèse, il n'y a pas d'études sur les répercussions que ça peut avoir sur la vie sexuelle des couples, sur la santé mentale des gens.
Non, c'est vrai
qu'on
manque vraiment encore d'études. Et c'est vrai que moi, mon livre, il est très empirique. Il est selon l'expérience que j'ai en cabinet, des gens que je rencontre, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'encore une grande plateforme de vidéos pornographiques, je ne vais peut-être pas la citer ici pour ne pas faire de publicité, mais il y a une des plus grosses en France, vient d'annoncer il y a a quelques jours qu'ils allaient commencer à mettre en place un processus pour s'assurer que les vidéos qui sont mises sur sa plateforme, sur leur plateforme, concernent des adultes qui sont consentants. Ah bah oui, on ne vérifiait pas ça. Ça veut dire très concrètement que si vous regardez des images pornographiques sur les différentes plateformes qui en diffusent en permanence, vous ne pouvez pas savoir si ces gens-là sont vraiment consentants parce que la régulation ne se fait pas, parce que la protection ne se fait pas de façon efficace. Bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire nous, on fait de la pornographie éthique, etc.
Alors, même
mais même eux, ils ont des affaires et des scandales. Parce que même les grandes maisons qui sont censées bien respecter les acteurs ont aussi leurs scandales. Et donc, on le sait de plus en plus. Il y a un rapport qui est sorti en septembre qui s'appelle Pornocriminalité, qui a montré à quel point des femmes et des hommes ne sont pas respectés, sont exploités, sont violentés. Il y a le consentement n'est pas respecté. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu une zone de non-droit. Comme si parce qu'il s'agissait de pornographie ou qu'il s'agissait d'Internet, en un coup, la loi n'est plus valable. Alors que ce sont des vrais hommes, des vraies femmes, qui de la vraie vie, et qu'il faut aussi les protéger. Donc non, on ne peut pas se dire ces gens-là sont consentants, je ne fais rien de mal. Tu ne peux pas te le dire parce que tu ne sais pas très concrètement aujourd'hui si c'est le cas ou pas.
Donc pour vous, le porno éthique, c'est comme le bio.
Oui, c'est ça. C'est comme,
ça dépend des labels.
Ça dépend des labels, et en tout cas, c'est quand même très compliqué. Et c'est un peu... En fait, derrière, il y a quand même une question un peu fondamentale sur la prostitution aussi. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une...
Avant que vous ne parliez de prostitution, moi j'ai une question à vous poser. Thérèse, est-ce que vous êtes pour qu'on interdise purement et simplement le porno, ou est-ce que vous souciez surtout du consentement et vous vouliez qu'il y ait des preuves de consentement?
Alors, moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on comprenne, en tant que sexologue, hein, ce que je veux, et thérapeute de couple, qu'on comprenne que ce produit ne va pas vous faire du bien pour votre vie sexuelle, ne va pas faire du bien pour votre vie relationnelle et vos amours. Donc déjà, que ce soit écrit comme sur un paquet de cigarettes fumez-tu, regarder du porno va abîmer votre vie sexuelle et va abîmer votre vie relationnelle.
Qu'on
arrête d'associer...
Beaucoup de prévention.
De prévention. Et ça, c'est pour moi, c'est le discours que je veux tenir. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'interdire la pornographie. En tout cas, moi, je ne consacrerai aucune énergie pour ça. Je pense pas, je sais pas ma façon de faire d'interdire les choses. Ça existe, mais qu'au moins ce soit très clair sur ce que c'est comme produit et les conséquences que ça a. Et c'est important de faire la prévention parce qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on associe pornographie à libération sexuelle, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de prévention, on n'en parle quasi pas. Et bon. Et après, l'autre chose, c'est par contre, là où je suis très ferme, c'est que je pense qu'il faut de toute urgence protéger les mineurs. Ça veut dire faire appliquer la loi. Ça veut dire demander à ce que n'importe quel mineur ne puisse pas juste en cochant une case tomber sur ces images-là ou qu'elles soient disponibles sur n'importe quel smartphone.
La case, c'est j'ai plus de 18 ans.
C'est pas normal, ça. Donc voilà. Donc ça, protéger les mineurs, ça, pour le coup, je me battrai. Les adultes, après, ils sont responsables. Mais il faut réglementer cette consommation. Je pense qu'il faut rendre aussi la pornographie payante. Pourquoi? Parce que c'est... ça va permettre aussi de mieux contrôler en fait cet usage, comme la cigarette est payante, enfin voilà, ou comme l'alcool, c'est payant, c'est un produit, c'est pas ça ne peut pas être comme ça en libre service gratuitement, parce que du coup ça ne donne pas aussi
gratuit n'existe pas, comme on dit. Hein.
Ouais, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein,
ouais, c'est ça. Ouais. C'est une loi marketing qui est imparable.
Moi, je crois que c'est aussi une façon de réguler la démographie.
Ah, pourquoi vous dites ça?
Alors, Nader, vous sortez ça d'où?
Écoutez, quand vous voyagez, vous vous rendez compte que, enfin, pas tous, hein, mais dans les pays où on a une politique démographique dont on veut que la population s'agrandit, eh bien, on rend les choses beaucoup plus difficiles d'accès concernant la pornographie. Je pense au Qatar, je pense à Dubaï. Là, et ça n'a rien à voir avec la religion, parce que dans des pays musulmans où on a une démographie très importante, eh bien, c'est davantage libre d'accès, puisque ça permet peut-être politiquement, parce qu'au bout d'un moment, à un certain niveau, il y a quelqu'un qui vous dit permis, pas permis. Bien que ce soit gratuit, voulu gratuit par les producteurs, il y a quand même un niveau de décision où on permet, où on dit non, ça ne sera pas. Donc je pense que là, il y a aussi quelque chose à voir au niveau politique pour ce genre de permissivité dans ce type de contenu.
C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les hommes et les femmes politiques ne s'intéressent pas davantage à ce sujet et ne réglementent pas davantage l'accès à la pornographie. C'est pas normal. Donc, ou bien c'est de l'ignorance.
Mais pourquoi? Parce que c'est
une vraie question. Alors moi, ce que je...
Parce que là aujourd'hui, il y a quand même une commission sur l'utilisation des écrans, sur les réseaux. Donc voilà, ça intéresse. Mais sur la pornographie,
les gens sont mal à l'aise avec ce sujet parce que qu'il y a toute une génération qui a associé la pornographie à un symbole de libération sexuelle et que la France est très attachée à cette idée de la libération sexuelle et qui n'arrive pas à penser que ce produit ne cherche pas notre liberté, cherche à nous rendre dépendants et à avoir une emprise sur nous. Donc il y a une association d'idées qui n'est pas bonne.
Non, il y a une chose que vous dites et qui est très, très vraie aussi dans, par rapport à cette idée de liberté, c'est qu'au contraire, ça prive l'imaginaire.
Ah,
ça
confisque
l'imaginaire érotique. Donc on n'est pas dans la liberté là. C'est qu'on va, on va scénariser pour toi.
Oui, on va formater nos imaginaires, on va nous conditionner à penser la sexualité d'une certaine façon. C'est le contraire de la liberté. On est beaucoup plus libre si on n'a jamais vu de pornographie que si on en voit, parce que en fait, on a tout dans notre imaginaire, on a toutes les idées qui viennent de cette industrie, alors que nous avons, les êtres humains, une capacité à pouvoir imaginer, d'avoir une créativité, à développer le monde des fantasmes. C'est extraordinaire, c'est tout à fait nécessaire.
La vie est toujours plus imaginative que le porno.
Ben, en fait, c'est ça. Et en fait, on a oublié qu'on avait une capacité bien plus importante. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vrai que si vous avez développé cet imaginaire-là dans votre vie, même dans votre adolescence, quand on regarde la pornographie, c'est tellement fade, c'est tellement minable par rapport à la capacité que notre cerveau a à imaginer des choses bien plus intéressantes et bien plus excitantes. Une fois qu'on a fait ça, hop, on peut s'en défaire parce qu'on se rend compte que tout ça n'a aucune saveur, aucun goût par rapport à notre capacité à pouvoir imaginer. Donc l'imagination est importante, le monde des fantasmes est aussi important. Mais fantasmes, ça veut pas dire c'est pas des choses à réaliser, hein, c'est des choses qui nous permettent
de mobiliser
le désir, exactement, ouais. C'est une bonne façon de le dire. Mais c'est vrai que là, en fait, ça va tout coincer. Et quand on voit les représentations qui sont faites, on peut s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de respect. Il y a beaucoup de violence. On sait que 90% des images qui sont visionnées aujourd'hui, à notre époque, dans notre société, concernent des scènes explicites de violence.
Voilà.
Donc c'est pas des jolis scénarios. C'est de la violence. Donc on s'habitue à avoir de la violence.
Et vous parlez de prostitution.
Oui. Mais c'est de ça dont il s'agit. Et finalement, derrière, il y a un débat qu'on peut avoir. C'est est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre la prostitution? Alors là, c'est difficile de s'entendre, hein, parce que c'est une vision de la personne humaine qui peut être tellement différente, c'est qu'ils sont un peu irréconciliables. La seule chose où on peut s'entendre, c'est cette question du consentement. Est-ce que vraiment on peut décider librement de vendre son corps? Alors, bien sûr qu'on aura toujours le témoignage de femmes et d'hommes qui vont nous dire que oui, c'est totalement librement qu'ils vendent leur corps. Et on adore ce genre de témoignage à notre époque parce que ça nous déculpabilise de regarder la pornographie. Parce qu'il y a toujours cette actrice qui dit, mais moi, c'est l'effet de ma liberté, je suis tellement fière de ce que je fais. Alors on adore ces actrices, ce sont nos idoles, on les invite sur les plateaux télé parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est qu'on veut pas voir que pour une star du X qui dit qu'elle adore son métier, il y a des centaines de milliers d'autres personnes qui sont exploitées, violentées. Et ça, on veut pas le voir parce que ça vient provoquer notre culpabilité.
Thérèse Argaud est notre invitée. Je rappelle que vous publiez Tout le monde en regarde ou presque chez Albin Michel, comment le porno détruit l'amour.
AVS revient dans un instant.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprenti, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique.
Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition,
mutualiste.
Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, point de vente soumis au code de la mutualité. Offre valable jusqu'au 31 août 2024, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr.
Desperados, avec sa bière Desperados Tropical, fait sa révolution. Pourquoi ? Parce que saveur rhum, citron vert et passion. Cette fraîcheur atypique, ça rappelle les tropiques. Desperados Tropical, sa recette est colorée, fruitée, mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Alors nous, on voudrait une cuisine...
Avec des tiroirs qui font...
Mais pas trop quand même.
À bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
1664 Blanc présente
à la French.
À la French, c'est quoi?
C'est quoi? Une bière française.
Cette bouteille bleue.
Très très fraîche.
Cette terrasse.
Ensoleillée.
1664 Blanc.
Ce serveur qui virevolte.
De table en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664 Blanc.
C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Maman, j'ai une énorme surprise.
Raconte.
Compagnon de Moulinex fête ses 10 ans. Et pour célébrer l'événement, on peut profiter d'une offre incroyable et inédite. Un robot cuiseur multifonction Compagnon de Moulinex acheté, le deuxième te revient à 1 euro.
En effet, c'est du jamais vu. C'est l'occasion qu'on se fasse un beau cadeau. Un pour toi, un pour moi.
À nous le fait maison, le partage, les bons petits plats cuisinés en famille, grâce au Compagnon de Moulinex.
Offre valable du 14 mai au 14 juin 2024, inclus dans la limite des stocks disponibles, voire conditions dans les magasins participants et sur moulinex.fr.
À tous ceux qui hésitent entre les rigatoni, les capellini, les tortiglioni, c'est le même goût, non? À ceux qui cherchent la différence entre les spaghettis numéro 5 et les numéro 7, et qui se demandent pourquoi il n'y a pas de numéro 6. Et à ceux qui vont repartir avec un paquet de coquillettes et basta. Chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet d'un kilo de pâtes Barilla à 1,98€, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 26 mai, 2 kilos soit 1,39€ le kilo au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149€ sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
Le festival Gnawa et Musique du Monde fête sa 25e édition. Une grande célébration pour un festival pas comme les autres. Une programmation exceptionnelle qui promet des moments magiques, des rencontres musicales inédites réunissant 35 Mellem Gnawa du Maroc et des musiciens de renommée mondiale. Bouika, Saint-Levant, Labès, Bokante, Alounouad, Aïta Mon Amour, Ablaye Sissoko et bien d'autres. Rejoignez-nous du 27 au 29 juin à Essaouira. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
S'il vous plaît, je vais faire un discours. Avant de fêter Hugo, un mot sur moi. Sinon, vous allez passer la soirée à me le demander. Donc oui, mes chaussures viennent de chez Sarenza.com, évidemment. Mais aussi ma robe, ma veste, mon sac. Oui, je sais, c'est très beau. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, tous les looks et les meilleures offres sont sur...
Sarenza.com.
Merci l'orchestre. Et sur ce, joyeux anniversaire Hugo.
Uniquement chez Poltron et Sofa, on trouve des canapés stylés et confortables en même temps.
Et puis, uniquement ça.
Il y a plus de 90 modèles de canapés qui, seulement en ce moment, sont remisés de 30%.
Venez vite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez
Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Thérèse Argot qui est notre invitée aujourd'hui, Nader Alami est là. Vous dites, Thérèse, dans votre livre que la pornographie fabrique des adultes inaptes au mariage.
Ouais, c'est un peu dur ce que je dis, mais je pense vraiment. C'est-à-dire que on a développé finalement, parfois depuis l'enfance, l'adolescence, une capacité à s'auto-persuader que quelque chose de mal est quelque chose de bien. C'est-à-dire que l'enfant, pour enlever son sentiment de culpabilité, va croire que y a pas de mal à en regarder. Si personne le sait, y a pas de problème. Puis tout le monde le fait. Bon, il va s'inventer un tas d'histoires. Et il va être capable de se mentir à lui-même pour justifier le fait qu'il regarde la pornographie. Et quand on est capable de se mentir à soi-même, de pas voir que quelque chose de mal est mal, eh bien ça donne un esprit un peu tordu qui fait que quand on s'engage dans le mariage, si on entend le mariage dans le sens aussi d'un engagement avec quelqu'un, d'une fidélité, bah, ça fait des gens inaptes à la fidélité. Et puis je suis désolée, hein, regarde la pornographie, c'est un acte sexuel en soi.
Alors c'est ça, c'est une infidélité.
Ben Si on entend la fidélité dans le sens de l'exclusivité sexuelle, ah oui, elle est brisée, puisqu'on a bien un acte sexuel, la masturbation c'est un acte sexuel, en voyant des vraies femmes et des vrais hommes de la vraie vie et en activité sexuelle. Alors c'est par l'intermédiaire de l'écran, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Donc vous voyez, de nouveau, alors, j'appelle un chat, on va pas tourner autour du pot. Donc ça dépend, peut-être que pour le couple, la fidélité c'est une fidélité amoureuse, ou peut-être que c'est, voilà, on peut donner un sens différent. Mais moi ce que je vous invite à faire, c'est dans votre couple, de poser cette question, c'est quoi pour toi la fidélité, c'est quoi pour moi la fidélité, est-ce qu'on s'entend bien sur le sens qu'on y donne? Et si on entend que la fidélité c'est aussi une exclusivité sexuelle, elle est brisée quand on regarde la pornographie.
Donc est-ce que ça voudrait dire que, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, hein, dans la nouvelle école de l'amour et du couple, que des gens, parce qu'ils auraient peur de ne plus pouvoir assumer une exclusivité, eh bien quelque part fuiraient même l'idée de se mettre en couple?
Alors, c'est sûr que on peut dire, est-ce que je suis capable? Je vous donne un exemple, parce que par exemple à l'école du couple, quoi, mais quand tu t'inscris, par exemple, ça c'est mon cas, je me suis inscrite récemment au marathon de Paris. J'ai jamais couru de ma vie, mais je me suis lancé ce défi. Je m'inscris au marathon, j'ai envie de faire le marathon.
J'ai encore trois mois,
c'est une catastrophe. Ouais, je vais être
bon. Bah, vous êtes vite.
J'ai compris après coup qu'il suffisait pas de vouloir courir le marathon pour savoir courir le marathon. C'est-à-dire qu'il fallait s'entraîner. Mmh. Ça veut dire que pour être capable de courir le marathon, il faut une préparation physique et en plus une préparation mentale. Et en plus, il faut avoir les capacités pour pouvoir courir le marathon. Tout le monde ne peut pas courir le marathon. Il faut être préparé et être capable. Je fais l'exemple. Je fais la comparaison avec le mariage. Tu peux vouloir te marier, magnifique, c'est une belle idée et tout ça. Est-ce que tu t'es préparé à vivre ce mariage comme un marathon là, parce que c'est comme une course de longue durée, et est-ce que tu en as les capacités? Ben, quand tu étais biberonné au porno depuis ton adolescence, non, je suis désolée, non, tu t'es pas bien préparé à vivre cette grande aventure là,
tu t'es pas formé,
tu en es pas vraiment capable. Ouais. C'est pour ça que si tu as ce grand rêve de vivre une grande histoire d'amour avec quelqu'un, eh bien il faut remettre en question cette consommation là, il faut se sevrer, tout simplement se désintoxiquer, même j'utilise les mots un peu forts, mais c'est de ça dont il s'agit, pour être capable de pouvoir aimer quelqu'un, l'aimer durablement, avec du respect, avec de la fidélité, comme cette personne le mérite.
Ça tient totalement.
Oui, totalement.
Alors après, c'est vrai que beaucoup déplorent ce manque de préparation au mariage, telle qu'elle existait auparavant. Ça prenait du temps de se préparer au mariage.
Bon. Mais on était formés au mariage et il n'y avait pas le porno et il y avait un tas de choses qui, enfin, tout ce qui freinait. Mais c'est une autre époque. Chaque époque avec ses problèmes et ses entraves. Non, moi j'aime bien cette idée-là. Mais qu'est-ce que vous répondez quand même aux gens qui vous disent? Parce qu'on peut pas non plus dire, Thérèse, que tout le monde est pas consentant, tout le monde est véritablement obligé de, bien qu'il ne le sache pas, qu'il soit obligé. Mais si, en fait, t'es obligé, il y a vraiment des gens qui vont. Ouais, je sais que c'est pas bien, mais j'ai envie d'y aller parce que ça me fait du bien. Dans ces sociétés hyper stressantes, j'ai besoin de me soulager.
Oui, c'est mon shoot de décompression.
Voilà, exactement. Ouais, voilà. Ouais. Ça m'aide à bien dormir la nuit et tout un tas. Voilà. Qu'est-ce que ça
m'aide? D'abord, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue de la société, moi je dis que l'addiction à la pornographie, c'est la maladie de notre époque, parce que c'est vrai qu'on est très stressé, on a beaucoup de pression, on a des rythmes de vie qui ne respectent pas vraiment ce pourquoi on est fait, et donc forcément on arrive en fin de journée ou à des moments dans la journée avec une dose de stress, de mal-être, et qui peut être évacuée de façon très rapide en deux clics au travers du plaisir sexuel. C'est un shoot de dopamine très accessible, c'est-à-dire une drogue hyper accessible pour d'un coup se soulager, se sentir mieux. Mais ce que je veux vous répondre, c'est que ce plaisir que vous allez obtenir de façon rapide ne va pas résoudre la cause de votre stress, la cause de votre frustration, de votre ennui, de votre colère, de votre tristesse. Et donc, ça ne va pas vous rendre mieux, en fait, après. Ça veut dire que sur le moment, on se sent bien, mais après coup, le mal-être revient puisqu'on n'a rien réglé à la situation. Donc, on peut se poser la question, quand on a recours beaucoup à la masturbation et à la pornographie, parfois, on peut se poser la question, est-ce que...
Ça va toujours ensemble? Vous dites que
non,
finalement...
Justement, on va les séparer, mais juste simplement se dire
on peut regarder la pornographie sans masturbation?
Non, justement, si on fait ça, on peut venir consulter, dans son c'est assez rare. Voilà, en général, la pornographie, c'est un support à la masturbation. On ne regarde pas du porno en prenant une tasse de thé à la main, c'est ce que je dis en permanence, c'est son sexe qu'on tient, donc c'est fait pour la masturbation. En revanche, on peut avoir recours à la masturbation sans regarder la pornographie. Et donc moi là, je suis très dure et sans aucune nuance sur la consommation de pornographie. En revanche, la masturbation, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à certains moments donnés de la vie, et je ne suis pas contre fondamentalement. Mais c'est l'industrie qui
peut... Vous auriez pu écrire le même livre avec le même titre. Sur la masturbation.
Sur la masturbation ?
Oui.
Tout le monde le fait ? Ou presque ?
Tout le monde le fait ou presque.
Voilà, c'est ça.
Mais personne n'en parle.
Personne n'en parle. Et donc après, ça dépend un peu dans quel contexte. Mais ce que je veux vraiment dire aussi, c'est que... j'en parle dans le livre. Pour moi, la pornographie, c'est comme l'opium du peuple. Oui, autrefois, on disait que c'était la religion qui était l'opium du peuple. Mais là, c'est vraiment une façon... C'est une drogue ultra accessible à n'importe qui pour endormir. Tu es fâché, tu es frustré, tu vas pas bien. Tu prends ton petit shoot là de sexe et après, tu vas te calmer. Et ça endort un peu les consciences, ça abrutit, ça bêtise un peu les gens. Et ça permet qu'on continue à fonctionner, parfois de façon absurde. Et on reste dans un état de mal-être qui dure, alors que non, c'est pas normal d'être dans cet état de mal-être. On peut changer sa façon peut-être d'être en relation ou de vivre. Et souvent, la pornographie est une fuite de la relation. Quand on n'est pas bien avec son conjoint, qu'il y a de la frustration, on va utiliser la pornographie pour combler cette frustration. Mais la pornographie ne va pas résoudre la raison de cette frustration. Donc il vaut mieux parler à son conjoint, dire en ce moment c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre relation, améliorer notre amour, plutôt que d'utiliser la pornographie qui va non seulement rien résoudre, mais amplifier le problème. C'est des... En tout cas, je parle de tout ça dans mon livre.
Mais en plus, c'est une solution solitaire.
Vous savez, c'est comme si il y a un restaurant, il y a des gens qui mangent et il y a des gens qui regardent. Moi, j'aime bien que tout le monde mange. Et le problème avec la pornographie, c'est que ça laisse des gens, en réalité, vous dites que c'est une sexualité, mais pas totalement non plus, parce que dans sexualité, il y a quand même cet élan qui vous conduit vers l'autre.
Oui.
Donc il y a quand même cette union sacrée qui se fait entre les gens. Et là, non, on regarde des gens manger. Donc on regarde des gens faire l'amour ou des gens avoir une activité sexuelle. Mm. Mais ça laisse des gens, beaucoup de gens, sans réelle activité sexuelle régénératrice, bienfaisante, véritablement apaisante.
Mm. Oui, parce que c'est ça qui nous apaise vraiment, c'est la connexion, c'est la rencontre, la relation. Et combien de jeunes me disent, mais madame, c'est tellement plus facile de regarder un porno que d'aller draguer une fille. C'est tellement plus facile aussi quand on est célibataire, de rester face à son écran quand on a un besoin sexuel plutôt que d'aller rencontrer quelqu'un avec qui on va créer une relation. Et moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça conduit à l'isolement, ça conduit à un espèce d'individualisme, un repli sur soi, une recherche effrénée de son plaisir égoïste, et on n'est pas dans la relation à l'amour, alors que c'est ça qui nous rend profondément heureux.
Mais c'est aussi, il y a cette illusion au départ, illusion de la sécurité, parce que aimer, c'est risqué. Aller vers l'autre, c'est risqué.
C'est vrai.
Donc il y a cette illusion de la sécurité que procurent ces images qui entretiennent justement ensuite cette peur, cette crainte de... Cette peur de vivre, finalement, parce que vivre, oui, vivre, c'est risqué.
C'est très, très vrai. Et d'ailleurs, les gens le disent aussi. Au moins, là, il n'y a pas de risque. Ça veut dire que la rencontre, on sait aussi comment... Il y a un risque émotionnel de s'attacher, puis après qu'il y ait des ruptures. Il y a aussi un risque, on parle beaucoup de l'action du consentement aujourd'hui, mais est-ce que je suis bien ajustée? Est-ce qu'on va peut-être à un moment me dire que je n'ai pas eu le bon geste ou la bonne parole? Il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi inquiets de cela, à juste titre, parce qu'ils ont compris que la notion de consentement était importante. Mais parfois, ça peut un peu les paralyser. Et donc là aussi, il y a la prévention et l'éducation à faire pour ne pas se dire, je vais juste rester derrière mon écran. C'est plus rassurant que d'aller rencontrer des femmes et des hommes.
Justement, concrètement, comment on pourrait faire, selon vous, de la prévention? Une bonne prévention, ce serait quoi?
Une bonne prévention, c'est d'abord, c'est ce qu'on fait déjà maintenant. Donc déjà, je vous remercie d'avoir proposé cette émission. Je vous remercie pour cette invitation. Ça permet de parler à vos auditeurs et puis que déjà, ils puissent avoir une réflexion sur ce sujet-là. La prévention, donc, c'est d'en parler à la fois au sein de son couple, de son foyer, mais aussi donc d'en parler à ses enfants, parce que
Sont impliqués, c'est votre affaire.
Ouais, c'est votre affaire, bien sûr. C'est comme vous parlez, j'imagine, à vos enfants des dangers de la cigarette ou des dangers de l'alcool. Vous dites attention, fume pas, ça va pas te faire du bien. Ne bois pas, ça va pas te faire du bien. Ne regarde pas du porno, ça va pas te faire du bien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire aussi. Donc, de pas se sentir gêné par rapport à ce sujet-là d'en parler. Je pense que la prévention dans les écoles est importante aussi, parce qu'il faut quand même que tous les enfants puissent avoir le message. Parfois, on l'a pas au sein de son foyer. Moi, je fais ça chaque semaine. J'interviens dans des lycées en France, collèges, pour faire de la prévention, mais il faut qu'on soit nombreux à le faire. Et ça, ça aide aussi hein, de comprendre, d'avoir une parole un petit peu aussi dans l'établissement scolaire. La prévention, c'est mettre des filtres, donc des protections sur les écrans de vos enfants, de ne pas les laisser regarder tout et n'importe quoi, même s'ils sont tout petits. Gardez le code, ne leur donnez pas le code de votre iPhone, de votre portable. Comme ça, vous gardez le contrôle aussi, même quand ils sont comme ça, qu'ils ont 5-6 ans, qu'ils demandent votre portable, que vous puissiez garder le contrôle avec des filtres. Et puis, on régule un peu l'accès aux écrans. Hein. Je suis désolée de dire ça. Moi, je suis maman de 3 enfants et je sais ce que c'est. Je trouve ça absolument insupportable.
Ils ont quel âge ?
Moi, ils ont 18, 15 et 11. On doit dire non, les écrans, c'est pas tout le temps. On arrête. Bon, 18 ans maintenant, depuis quelques jours, là, je vais peut-être arrêter de lui dire, mais quand même, le petit de 11 et la fille de 15, il faut lui dire non, on régule les écrans. On peut pas laisser nos enfants tout seuls derrière leurs écrans.
Et comment vous régulez ?
Ben, ça veut dire qu'il y a des temps.
Vous avez une boîte à portable ?
Boîte à portable, ce serait l'idéal. On le fait, puis après on l'oublie, puis on refait, mais ça, c'est évidemment l'idéal. Et puis après, il y a des temps d'écran. Oui, après une certaine heure, ça s'arrête. Et puis le petit, là, par exemple, de 11 ans, n'a pas d'écran. Enfin, il n'a pas de téléphone. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire ça. Et puis après, en tant que citoyen, citoyenne, de pouvoir demander à nos hommes et une femme politique de nous aider. Parce qu'en tant que parent, on est complètement démunis. Même moi, c'est mon métier. Je parle de ça toute la journée. Je donne des conférences partout. J'écris des bouquins. Je ne peux pas protéger totalement mes enfants. Ça veut dire que l'industrie est tellement puissante et tellement forte qu'ils peuvent encore avoir accès malgré toute la prévention. C'est assez, on sent assez impuissant par rapport à ce phénomène-là et on a besoin d'être aidé par l'État.
Invisible, indolore, inodore, la pornographie est la drogue dure des gentils garçons et des gentilles filles. Elle est la drogue des gentils parce qu'elle se vit cachée. Vous dites qu'on peut se fier à personne.
Non, alors partez du principe.
Ça,
que
c'est pour les parents, les
vous,
enfants.
Les parents, ouais.
Pas mes enfants, mon fils, ma fille.
Non, mais c'est jamais nos enfants, attendez. Et je disais en tant que maman, c'est toujours les enfants des autres, pas nos enfants. Nos enfants, bien sûr qu'ils ne sont pas intéressés par ces choses-là, ils ne vont pas regarder ces choses aussi ignobles. Non, mais bien sûr, c'est la croyance qu'on a comme parents, c'est pour ça qu'on ne les protège pas bien, parce qu'on croit qu'ils ne sont jamais concernés. Malheureusement, je suis désolée. Et de nouveau, je le dis en tant que maman, donc avec beaucoup d'empathie, de compréhension, on ne peut pas penser ça, ça concerne aussi nos enfants, malgré toute la bonne éducation qu'on veut leur donner. Donc une fois qu'on comprend ça, c'est qu'on ne peut pas imaginer si notre enfant regarde ou ne regarde pas ces images-là. C'est impossible. Tu ne peux pas savoir. Moi, en consultation, j'ai des petites filles, des petits garçons, tu donnerais le bon Dieu sans confession. Ils sont adorables, trop mignons. Et ils sont exposés à ces images pornographiques parfois depuis des années. Ça, c'est une réalité. Et parfois, des pères de famille exemplaires, des mères de famille adorables et qui sont sous l'emprise du porno. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas savoir. Donc, on est obligé d'en parler.
On peut se fier à personne.
Non, vraiment pas.
Bien. Tout le monde en regarde ou presque chez Albin Michel. Comment le porno détruit l'amour? C'est le titre du livre que vous venez de publier, Thérèse. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous pour cette invitation. Ben écoutez, courageux d'en parler.
On vous a attendu.
Ouais.
On vous a attendu, nous on a du courage.
Oui, vous avez du courage.
On a du courage. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Nader, à mardi.
À mardi.
Et on très belle fait. Journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
غير لي الحوار اي اللي ديروا بيناتهم يا اللي ربحوا خاصني غير احنا قلبي وقلبك وجرح وهيا ايوا خاصني غير احنا وقلوبنا اللي جرحوا
Dimanche, c'est le jour du poulet rôti. Et en ce moment, chez Cora, c'est tous les jours dimanche. Jusqu'au 20 mai, le poulet rôti certifié Origine France d'environ 900 grammes est à seulement 7,90€, soit 8,78€ le kilo. Alors, venez chez Cora pour en profiter. Disponible au rayon charcuterie traiteur. Voir conditions sur cora.fr. Pour votre santé, bougez plus. Cora, c'est aussi ça, l'hyper proximité.
Bien plus qu'une radio. Professionnel. Un service à proposer, un produit à faire connaître. Beurre FM est le moyen idéal pour faire parler de vous. Découvrez nos produits et nos offres en contactant la régie publicitaire de Beurre FM au 01 53 48 30 47 ou 49 ou pub@beurrefm.net. Vous avez le savoir-faire ? Nous allons le faire savoir. Actu, podcast, playlist. Retrouvez le meilleur de la radio sur l'appli Beurre FM, disponible sur Apple Store et Play Store. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Beurre FM.
De la musique et encore plus de musique.
Toujours plus de hits.
Je plus de hits alors que je maille. Elle veut savoir je suis dans quel maille. Oh,
mais elle fut belle.
Hit, plus de musique sur Beurre FM.
Beurre FM.
Plus de hit, plus de musique sur Beurre FM.
Beurre FM. Beurre FM. À Aulnay-sous-Bois sur le 106.7 FM. FM, bien plus qu'une radio.
Oui, la tsiparina, j'ai radi et bkali. Nti l'hnana, bla bik yisrali. Qu'dab le monde, n'gullek ya gazali. Nti ya l'ashqa, w'nti l'hub diali. Yeah.
عليه الغمر يسموني نعشق في كل محضر حضر
الله بيك في رقم زي